Anatole France, la leçon bien apprise. Au temps du roi Louis XIe vivait à Paris, en chambre nattée, une bourgeoise nommée Violante, qui était belle et bien faite de toute sa personne. Elle avait si clair visage que maître Jacques Tribouillard, docteur en droit et cosmographe renommé, qui fréquentait chez elle, avait coutume de lui dire « Oh, vous voyant, madame, je tiens pour croyable et même assuré ce que rapporte Cucurbitus Piger en une scolie de Strabo, à savoir que l'insigne cité et université de Paris fut autrefois nommée de nom de Lutèce ou Leuquesse, ou de tel autre semblable vocable revenant à Leuquet, c'est-à-dire la Blanche, pour ce que les dames d'Issel avaient la gorge comme neige, mais non point toutefois autant candide, brillante et blanche que la vôtre, madame. » À quoi Violante répondait « Il me suffit que ma gorge ne soit pas à faire peur, comme plusieurs que je sais, et si je la monte, c'est pour suivre la mode, il y a trop d'impertinence à faire autrement que les autres. » Or, Madame Violante s'était mariée, dans la fleur de sa jeunesse, à un avocat au Parlement, homme très aigre et fort âpre à charger et grever les malheureux, au reste malingre et de faible complexion, et tel qu'on le croyait plus propre à donner de la peine au dehors de son logis que du plaisir au dedans. Cet homme préférait à sa moitié ses sacs de procès, qui n'étaient point faits comme elle. Ils étaient gros, enflés, informes. Et l'avocat passait ses nuits dessus. Madame Violante était trop raisonnable pour aimer un mari si peu aimable. Maître Jacques Tribouillard soutenait qu'elle était parfaitement sage, assurée, affirmée et confirmée en la foi conjugale autant que Lucrèce romaine. Et il en donnait pour raison qu'il n'avait pu détourner de ses devoirs. Les hommes de bien se tenaient à ce sujet dans un doute prudent, par cette considération que ce qui est caché n'apparaîtra qu'au jugement dernier. Ils considéraient que cette dame aimait trop les joyaux et les dentelles, et qu'elle portait aux assemblées dans les églises des robes de velours, de soie et d'or, garnies de menus verts, mais ils étaient trop honnêtes gens pour décider si, faisant damner les chrétiens qui la voyaient si belle et si bien nippée, elle ne se damnait point avec quelqu'un d'entre eux. Enfin, ils eurent joué la vertu de Madame Violante à croix ou pile, ce qui est fort à l'honneur de cette dame. À la vérité, son confesseur, frère Jean Turlure, la réprimandait sans cesse. « Croyez-vous, madame, lui disait-il, que la bienheureuse Catherine soit arrivée au ciel en menant la vie que vous menez, en montrant sa gorge et en faisant venir de la ville de Gênes des manchettes de dentelle ?» Mais c'était un grand prêcheur, très sévère aux faiblesses humaines. Il ne pardonnait rien et croyait avoir tout fait quand il avait fait peur. Et il la menaçait de l'enfer pour s'être lavé le visage avec du lait d'ânesse. Enfin, on ne savait si elle avait congrûment coiffé son vieux mari, et messire Philippe de Coëtqui disait plaisamment à cette honnête dame « Prenez-y garde, il est chaud, il va s'enrhumer !» Messire Philippe de Coëtqui était un chevalier de bonne mine et beau comme un valet du noble jeu de cartes. Il avait rencontré Madame Violante un soir dans un bal, et après avoir dansé avec elle fort avant dans la nuit, il l'avait ramenée en croupe, tandis que l'avocat barbotait dans la boue et l'eau des ruisseaux sous les torches dansantes de quatre laquais ivres. En ce bal et dans cette chevauchée, messire Philippe de Coëtqui s'était formé l'idée que Madame Violante avait la taille ronde et la chair bien pleine et bien ferme. Il en avait tout de suite aimé, et comme il était sans feinte, il lui disait ce qu'il désirait d'elle, qui était de la tenir toute nue dans ses bras. À quoi elle répondait « Messire Philippe, vous ne savez à qui vous parlez, je suis une dame vertueuse. ou bien Monsieur Philippe, revenez demain. Il revenait le lendemain et lui disait Qui vous presse? Le chevalier concevait de ces retardements beaucoup d'inquiétude et de dépit. Il était prêt de croire avec Maître Tribouillard que Madame Violante était une Lucrèce, tant il est vrai que tous les hommes se ressemblent par la fatuité. Et il faut dire que ne lui avait pas seulement accordé de lui baiser la bouche, ce qui n'est pourtant qu'amusement bénin et légère mignardise. Les choses en étaient là quand Frère Gentilrelure fut appelé à Venise par le général de son ordre pour y prêcher les Turcs nouvellement convertis à la vraie religion. Avant de partir, le bon frère alla prendre congé de sa pénitente et lui reprocha avec plus de sévérité que de coutume de mener une vie dissolue. Il exhorta vivement à la pénitence et la pressa de se mettre un cilice sur la peau, incomparable remède contre les mauvais désirs et médecine sans seconde pour les créatures enclines au péché de la chair. Elle lui dit « Bon frère, ne m'en demandez pas trop. » Mais il ne l'écouta pas, il la menaça de l'enfer, si elle ne s'amendait point. Il lui dit ensuite qu'il ferait volontiers les commissions dont elle le chargerait. Il espérait qu'elle le prierait de rapporter pour elle quelques médailles bénites, un rosaire ou bien encore un peu de cette terre du Saint-Sépulcre que les Turcs apportent de Jérusalem avec des roses séchées et que vendent les moines italiens. Mais Madame Violante lui fit cette requête. Bon petit frère, puisque vous allez à Venise, où il y a d'habiles miroitiers, je vous serai fort obligé de m'en rapporter un miroir, le plus clair qu'il se pourra trouver. Frère Gentilrelure promit de la contenter. Pendant l'absence de son confesseur, Madame Violante mena la même vie que devant. Et quand Messire Philippe lui disait, Ne ferait-il pas bon nous aimer? Elle répondait, Il fait trop chaud. Regardez à la girouette si le vent ne change point. Et les gens de bien qui l'observaient désespéraient qu'elle donnât jamais des cornes à son vilain mari. Mais c'est péché, disait-il. À son retour d'Italie, frère Gentilrelure se présenta devant Madame Violante et lui dit qu'il avait ce qu'elle souhaitait. Regardez-vous, madame! Et il tira de dessous sa robe une tête de mort. C'est, madame, votre miroir, car cette tête m'a été donnée pour celle de la plus jolie femme de Venise. Elle fut ce que vous êtes, et vous lui ressemblerez beaucoup. Madame Violante, surmontant sa surprise et son dégoût, répondit au bon père avec assez de fermeté qu'elle entendait la leçon et qu'elle ne manquerait pas d'en profiter. J'aurai présent à l'esprit, beau frère, le miroir que vous m'avez apporté de Venise, où je me vois non sans doute tel que je suis à présent, mais tel que je serai bientôt. Je vous promets de régler ma conduite sur cette idée. Frère Gentilrelure ne s'attendait pas à de si bons propos. Il en témoigna quelque satisfaction. Donc, madame, vous concevrez vous-même qu'il faut changer de sentiment. Vous me promettez de régler désormais votre conduite sur l'idée que cette tête décharnée vous vient de donner. Ne le promettez-vous point à Dieu comme à moi? Elle demanda, Le faut-il donc? Il répondit qu'il le fallait. Je le ferai donc, dit-elle. Madame, voilà qui est bien. Il n'y a plus à s'en dédire. Je ne m'en dédirai point. Ayant ouï cette promesse, frère Gentilrelure quitta la place tout joyeux. Et il s'en alla, criant par la rue. Voilà qui va bien. Avec l'aide de Dieu, notre Seigneur, j'ai viré et poussé de vers la porte du paradis une dame qui jusqu'ici, sans forniquer précisément dans la manière que dit le prophète, employait à tenter les hommes, le limon dont le Créateur l'avait pétri afin de le servir et de l'adorer. Elle quittera ses façons pour en prendre de meilleures. Oh, j'ai bien changé, Dieu soit loué. » Le bon frère avait à peine descendu l'escalier quand messire Philippe de Coëtquy le monta et gratta à la porte de Madame Violante. Elle le reçut d'un air riant et le conduisit en un petit retrait garni de tapis et de coussins à force où il était point encore venu. De quoi il augura bien. Il lui offrit des dragées qu'il avait dans une boîte. « Sucez, sucez, madame, elles sont douces et sucrées, mais non point tant que vos lèvres. » À quoi la dame répliqua qu'il était bien vain et un peu sot de vanter un fruit où il n'avait pas mordu. Il répondit à propos en la baisant sur la bouche. Elle ne s'en fâcha guère et dit seulement qu'elle était femme d'honneur. Il l'en loua et lui conseilla de ne pas enfermer cet honneur en tel particulier logis où l'on pouvait atteindre. Car sûrement, on le lui prendrait, et tout à l'heure. « Mais essayez, » dit-elle en lui donnant de petits soufflets avec le creux rose de sa main. Mais il était déjà maître de tout prendre selon son désir. Elle criait: « Oh, je ne veux point, fi, messire, oh, vous ne ferez point cela, mon ami, mon cœur, je meurs !» Et quand elle eut fini de soupirer et d'expirer, elle dit gracieusement: « Messire Philippe, ne vous flattez point de m'avoir prise par force ou par surprise. Si vous avez eu de moi ce que vous vouliez, c'est de mon gré. » Et j'ai fait de défense qu'autant qu'il fallait pour être vaincu à souhait. Doux amis, je suis vôtre. Si, malgré votre beauté, dont je fus d'abord charmé au mépris de la douceur de votre amitié, je ne vous avais point accordé encore ce que vous venez de prendre avec mon consentement, c'est que je n'avais point de réflexion, je ne me sentais point pressé par le temps et plongé dans une molle indolence. Je ne tirais nul bien de ma jeunesse et de ma beauté, mais le bon frère Gentilrelure m'a donné une leçon profitable. Il m'a enseigné le prix des heures. Et tantôt, me montrant une tête de mort, il m'a dit: « Tel vous serez bientôt. » Oh, j'en ai conçu l'idée qu'il faut se hâter de faire l'amour et bien remplir le petit espace de temps qui nous est réservé pour cela. » Ces paroles et les caresses dont Madame Violante les accompagna persuadèrent messire Philippe de bien employer le temps d'agir de nouveau à son honneur et profit pour le plaisir et la gloire de sa maîtresse et de multiplier les preuves certaines que doit donner en une telle occasion tout bon et loyal serviteur. Après quoi, la dame le tint quitte. Elle le reconduisit jusqu'à la porte, le baisa gracieusement sur les yeux et lui dit: « Ami Philippe, n'est-ce pas bien faire que de suivre les préceptes du bon frère Gentilrelure ?